Ceuta.
Vous écoutez la radio francophone d'Auckland, Amuse Gueules.
Tu la connais celle-là?
Oui.
J'ai la mémoire qui flanche. Bon, c'était un petit hommage. J'ai pensé à ça. D'habitude, je fais mais là, je fais la mémoire qui flanche. Bonsoir tout le monde, Kéora. Good evening. C'est David à l'appareil.
Bonsoir David.
En bonne compagnie. Anso à la technique.
Bonsoir.
Ciao. Et deux revenantes, on peut dire. Tu vas pas aimer ça, Elisabeth. Bonsoir, Elisabeth.
Bonsoir.
Et puis Diane.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir. Et donc, on va parler de plein de choses, en fait, ce soir. Parce qu'on est quatre dans la salle. Petit hommage à Jeanne Moreau, donc, qui malheureusement nous a quittés cette semaine à l'âge de 89 ans, c'est ça?
C'était mardi, mercredi,
je ne me rappelle plus maintenant.
Lundi.
Mardi pour nous, lundi pour eux. Voilà. Et puis, on va parler volontaire service des îles Salomon. C'est Elisabeth qui va nous en parler un peu plus. Parce que Madame voyage, quand même. Et puis,
Madame
Diane
s'engage.
Madame voyage.
Comme d'habitude.
Et puis, Diane nous parle de beaucoup d'événementiels, en fait. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Auckland, au mois d'août. Et donc, il y a deux, trois choses dont on va faire des allusions. Si j'ai un peu de temps, je parlerai de Jeanne Moreau, des choses qu'elle a faites. Parce qu'il y en a un paquet, quand même. Elle a une vie remplie. Voilà. On se passe une petite musique. T'as choisi quoi pour la première?
Pour démarrer, ouais. On va se passer le tourbillon.
Le tourbillon.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe, aïe, aïe. Ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu. Sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
Voilà, le tourbillon de la vie. Beaucoup de journaux, le Libé, Le Monde, beaucoup de journaux lui ont fait hommage en disant que Jeanne Moreau est morte, le tourbillon de la vie l'a emporté, etc., etc. Donc, une grosse allusion à cette chanson, qui, je l'ai appris en lisant les journaux francophones, en fait, ne vient pas du film Jules et Jim, qui est de 1962 par François Truffaut. En fait, ça a été écrit pour elle, pour Jeanne Moreau, 4 ans plus tôt, presque en 57-58, par un jeune homme qui s'appelle, il a un nom assez compliqué, il avait un nom de plume, puis un nom de son vrai nom à lui, s'il s'appelait, mince zut, j'ai perdu la page, donc je suis en train de meubler gentiment, j'avais son nom juste le, et ben voilà, je l'ai pu, ou c'est sur l'autre page, il s'appelle comment ce monsieur, attention. C'est pas grave. En fait, bon, il l'a écrit Monsieur Rezvani, R-E-Z-V-A-N-I. Donc Monsieur Rezvani a écrit cette chanson et d'autres d'ailleurs pour elle, mais elle a écrit aussi ses propres chansons et elle a interprété Norge. Il y a un CD, il y a un disque qui s'appelle Les chansons de Norge. Donc c'est que elle qui chante une dizaine de chansons de Norge. Il y a Duras, Guilvic et Genet. Voilà. Pour en parler d'autres. Mais en fait, c'est une chanson écrite pour Jeanne Moreau 4 ans plus tôt. En 57-58, 4 ans avant le film, et en fait c'est sur sa vie à elle, c'est parce que elle avait épousé Jean-Louis Richard, son premier mari. Alors il y en a eu 3. Donc son premier mari, elle a eu un enfant avec lui et ils sont quittés, ramenés, voilà. Et donc Monsieur Rez Navi a écrit cette chanson pour Jeanne Moreau en lui disant bah t'as des amours un peu tumultueux. Ou tumultueuse, si les amours sont féminines, et donc je t'ai écrit une chanson pour raconter ta vie amoureuse en fait, parce qu'elle a divorcé, en 61 de Monsieur Reznavi, de Jean-Louis Richard, qui est le père de son seul fils. Elle n'a eu qu'un seul enfant, Jérôme Richard.
Artiste voilà. Peintre d'ailleurs.
Donc c'est la petite histoire de cette chanson. Et quand Jules et Jim est filmé. Truffaut savait qu'elle avait chanté cette chanson, qu'elle était écrite, mais elle a été jamais, elle avait pas performé. On dit en français, performé. Non, une performance. Interprété. Merci. Sur scène ou quoi que ce soit cette chanson-là. Mais Truffaut savait qu'elle pouvait la chanter. Et il dit mais ça convient parfaitement. Il y a un trio, il y a deux hommes, une femme. Elle est dans la cuisine, elle est dans la salle à manger. Et c'est le seul morceau de voix live en fait du film. C'est une prise son directe. C'est la seule prise son directe de tout le film Jules et Jim. Tout est fait après. Donc les voix ont été refaites off, sauf cette chanson. C'est la seule prise directe. Donc elle a chanté en live pour prendre ce film. Et c'est encore la version qu'on trouve sur YouTube partout en fait. Bizarrement, cette version n'est pas sur un disque. Elle est sur un disque, mais ce disque est pris du film de Truffaut. Très fort quand même. Ouais, pour la petite histoire, mais j'ai trouvé ça assez sympa.
Très belle petite histoire.
Alors, j'ai Siri qui se réveille. Tu parles à ton téléphone maintenant, même quand tu lui parles pas. J'ai coupé le son de mon téléphone, mais c'est lui qui veut me parler maintenant. Enfin bon. Donc la petite histoire, Jeanne Moreau, le tourbillon de la vie. Très chouette quand même, hein, on en apprend tous les jours.
Absolument.
Voilà, Diane, on va parler du mois d'août à Auckland, et surtout en premier lieu, tu veux nous parler du Auckland.
Oui, alors on a tendance à penser que le mois d'août à Auckland, c'est un petit peu déprimant, il pleut, il n'y a pas grand-chose à faire, tout le monde envoie des super photos de l'été européen ou d'autres endroits exotiques. Mais en fait, il se passe pas mal de choses. Et donc, j'ai sélectionné deux événements qui me paraissaient intéressants. Parce que ça dépend pas du tout du temps. Donc, s'il pleut, c'est pas grave. On peut toujours y aller. Donc, il s'agit de Auckland Month, donc le mois d'Auckland. Et en fait, c'est une initiative de à peu près plus de 100 restaurants à Auckland. Comme on le sait, il y a de plus en plus de restaurants en plus à Auckland. Évidemment, c'est aussi les meilleurs et les plus connus qui proposent en fait des formules un peu plus réduites. Donc, on peut aller prendre, par exemple, avoir un lunch à $25 à dépôt ou d'autres.
Oui, d'habitude, ce serait 45,
voilà,
j'imagine.
C'est ça. Voilà. C'est bon, ça. Peut-être ce sera un peu plus si évidemment on consomme plus. Mais voilà. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils organisent aussi à peu près plus de 25 événements. Mm-hmm. Et donc ces événements, ça permet en fait d'avoir une expérience culinaire, gastronomique, un petit peu différente. Alors par exemple, c'est quel jour ? Le 30 août,
à la fin du mois en fait.
À la fin du mois. Donc je suppose que vous connaissez tous le Sugar Club et Peter Gordon. Donc,
oui, oui. C'est en haut de la tour. C'est celui en dessous de la tour ou en dessous du 31. Il y en a deux ou trois. 30
c'est le restaurant
et 31.
Tout en haut de la tour. Haut, mais c'est pas le Orbit, c'est celui qui est en dessous.
Juste en dessous. C'est celui qui tourne pas. L'Orbit tourne, le Sugar.
Je crois que c'est deux tournes.
Oh la vache.
Je me souviens plus. Hein, mais
je connais pas mes restaurants.
Et donc en fait, actuellement, il y a une espèce de renouveau de la cuisine, le fine dining maori. Et donc, c'est que des chefs maoris très connus, donc Monique Fissot, Neil Brazier, Morgan McGlone, Donc ils ont tous été reconnus ou à l'étranger parce qu'ils ont travaillé dans des restaurants aux États-Unis ou en Europe. Et donc ils proposent une formule d'un repas complètement maori, enfin inspiré de la gastronomie maori, mais en fine dining.
Donc ça et ce sera au Sugar Club, au donc Sugar dans la Club. Tour.
Voilà, mal, donc c'est à partir de 5h30. Donc...
Et c'est aussi à 25$
Non.
Là, je peux peut-être y aller à 25$.
Ah. Non, c'est un petit peu plus, mais bon, c'est une expérience assez unique. C'est 98$, ce qui est quand même pas
oui,
trop
c'est,
cher.
Oui, si, c'est trois chefs, ouais. Et combien de, il y a combien de mets? 3 mets, 5 mets, 10 mets?
Je crois que c'est à peu près 4. Et en fait, si vous allez sur Internet et regardez le site de Auckland Month, il y a une description en fait du menu.
D'accord.
Et qu'est-ce qu'il y avait au menu? Ah oui, il y avait du pigeon, j'avais remarqué. Et aussi.
Mais pas du pigeon sauvage, c'est où du...
Ah ben non, le pigeon sauvage, on n'a pas.
On
le
touche
droit
pas
de...
techniquement. Il y a des politiciens qui sautent pour moins que
encore,
ça.
Mais... Ouais. Et aussi, on peut goûter. Donc, il y a un plat, le pawa, donc pawa ouais. Shell. Avec une bonne sauce, ça fait penser aux escargots, je trouve un petit peu. Oui. Ça peut rappeler le goût des escargots. Donc voilà, donc ça pourrait être intéressant. L'autre événement qu'ils proposent, c'est un repas en fait progressif. C'est ce qu'on appelle un repas progressif, c'est ça? Un dîner progressif, c'est-à-dire qu'on donc tu commences ton entrée dans un endroit.
Ah ouais.
Et enfin, tu commences ton entrée dans un restaurant. Ensuite, tu prends ton vélo et tu.
Ton vélo.
Oui, parce que c'est, en fait, c'est une initiative.
C'est au mois d'août, à Auckland. C'est,
oui, alors voilà,
et ça va être la nuit?
C'est la journée.
Ah, la journée.
C'est la journée, donc c'est une, c'est l'association Bike Auckland.
Si, très bien, c'est une bonne idée, mais au mois d'août.
Oui, c'est vrai que là.
S'il pleut comme vache qui pisse, on va.
Bah oui, mais bon.
Il y a des bus au cas où?
Non, parce que c'est, en fait, c'est un espèce de, comment dire, c'est une tentative de Bike Auckland de aussi sensibiliser les gens sur ce qui se passe avec les vélos et tout ça à Auckland. Et donc, en fait, ils proposent de faire un tour, donc c'est guidé, et il faut amener son propre vélo, ils ne fournissent pas les vélos. Et donc, c'est à peu près 10 kilomètres.
Et donc, 4 restaurants, 3
restaurants? 4 restaurants,
10 kilomètres.
Donc, 4 étapes sur
et les aucune 10 kilomètres. Et aucune boisson? Si?
Après c'est la responsabilité de chacun.
D'accord.
Ça après je sais pas mais
Ah bah oui parce que quand on fait du vélo est-ce qu'on a le droit de boire ou pas?
Oui.
Non mais
on a le droit de boire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tours à Hawke's Bay dans les régions vinicoles et viticoles, il y a beaucoup de tours à vélo mais tu finis par marcher à la fin quoi.
Ouais, oui, mais c'est vrai qu'il y a pas de ils peuvent marcher de toute façon.
Oui, à côté
et
du vélo.
Et puis si c'est guidé, on les ramènera à la maison, j'imagine. Donc je trouvais ça assez intéressant et puis donc vous êtes tous au courant du festival français le 26 août qui aura lieu.
Non, on peut en parler en deuxième partie.
Non, alors il y a un festival français
qui
aura lieu ce jour-là et dans le cadre de Auckland Month. Ils ont décidé de organiser en fait deux événements. Un événement la journée qui s'appelle One Day in France. Et donc en fait c'est une espèce de marché où il y aura à peu près 25 étals de tout type de nourriture, donc fromage, pâtisserie, vin.
Ce sera où tu sais?
C'est au Shed 10.
D'accord.
L'événement est gratuit. C'est bien. Et donc le One Day in France, ça commence, je crois, je suis pas ça commence à peu près 10h jusqu'à 5h du soir. Et ensuite, c'est One Night in France. Donc c'est le même concept, sauf que là, c'est payant. Parce qu'en fait, c'est un grand repas qui est organisé sur je sais pas combien de tables. Mm-hmm. Et si je me souviens bien... Non, je n'ai pas le tarif là, mais on peut le
trouver. On peut le trouver sur le
Auckland
Month.
Donc,
tu vas aller à quelques-uns des trucs. Ça te donne l'eau à la bouche ou pas?
J'aimerais bien. Bah, en fait, le Maori Fine Dining, ça me branche bien.
C'est différent en plus.
Voilà.
C'est pas souvent, quoi.
Et puis on pourrait le faire...
T'es encore là, Elisabeth?
Non, moi je serais partie. Oui.
Parce que t'as l'air d'être bien au courant, t'es plus au courant que nous qui restons ici.
Je reçois des informations par Facebook, et puis voilà, c'est tout.
Et tu les lis?
Eh bien, oui, je pianote.
Ah oui. Non, mais ce qui serait bien, c'est de prendre le vélo pour aller manger un peu, ensuite faire le Sky Tower redescendre. Et
surtout si tu montes à pied, tu fais des marches. En fait, c'est des tours gastronomiques où tu maigris, tu fais du sport en même temps. Voilà. C'est vachement bien comme tour gastronomique. C'est fit gastronomie.
Voilà.
Super, super. Alors, est-ce qu'on remercie Diane pour ce premier? Donc, c'est oaklandmonth.co.nz.org.nz, tu sais ou pas le site? C'est pas grave, ils peuvent le trouver. On mettra sur le blog.
Et c'est du 1er au 31 août.
D'accord. Et je crois qu'on fait une introduction Île Salomon avec de la flûte de pan, c'est ça?
Si ça marche sur mon téléphone.
Si ça marche.
J'ai sûr que ça va marcher.
Voilà.
Voilà, voilà. Maintenant, j'ai mon casque est trop fort. J'ai monté le casque parce que la flûte de pan était un peu légère. Et maintenant, j'ai le cri dans les oreilles. Alors, Elisabeth, introduction Île Salomon. Tu veux parler plus d'Île Salomon du VSA ou
je pense que je veux parler un petit peu des deux. De toute façon, les îles Salomon, j'ai pas encore été, donc je connais pas grand chose à part ce que j'ai lu sur le sujet. Et autrement, VSA, eh bien évidemment, je pense que pratiquement tout le monde a entendu parler de VSA, Volontaire Service Abroad, une des plus anciennes ONG néo-zélandaise qui a plus de 50 ans et qui fait du développement essentiellement dans les îles Pacifiques pour ces temps-ci, depuis à peu près une dizaine d'années. J'avais déjà fait 2 ans avec VSA en Afrique du Sud, une expérience assez mémorable, fatigante, mais très vraiment life changing, comme on dit. Oh là là,
transformative.
Transformative, merci. Oh là là, ça vraiment. Non, ça c'est trop.
Mais on manque de pratique de radio, Elisabeth.
Oui, là, vocal 1 euro, d'accord. Donc je m'étais toujours dit. J'étais pas sûre si j'allais le faire ou pas. J'ai dit, bon, je crois que je vais refaire ce genre d'expérience.
Pas 2 ans.
C'est-à-dire que de nos jours, 2 ans, quand on a un certain âge, c'est pas toujours évident.
Et donc, du coup, tu partirais combien de temps?
Donc là, c'est seulement 6 mois.
D'accord.
Donc, c'est 6 mois. Et ça, c'est un peu combiné. J'étais en phase retirement. Et puis j'ai vu cette proposition
en
demi-retraite ou 3/4 de retraite, non, 1/4 de retraite, enfin bref. Et puis j'ai vu ça sur le site de VSA et puis ça
clique, ça gamberge.
Ça gambergeait dans ma tête et puis j'ai dit oui, ben pourquoi pas, 6 mois, je peux encore faire ça, voilà. Donc et puis j'ai envoyé mon dossier. Et j'ai été sélectionnée, comment on dit, shortlisted, oh là 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 là.
Oui, bah...
Sélectionnée.
Présélectionnée, c'est la présélection,
oui,
la shortlist.
Donc on était deux, donc 2 jours entiers d'interview, donc c'est toujours assez à deux sur la même position, donc c'est bien, ça apprend un peu d'humilité, surtout que c'est l'autre personne est fantastique aussi, donc on a envie que ce soit l'autre qui remporte...
la médaille, le bonbon.
Mais on voudrait bien l'avoir aussi. Bon, puis finalement j'ai été sélectionnée, donc j'étais tout à fait fière de moi, bien sûr, mais je pense que j'aurai pas mal de challenge, excusez le mot terrible.
Challenge, c'est la même chose en français, le défi, oui.
Le défi, mais voilà, donc en principe, je pars dans 2 semaines à peu près, j'ai toujours pas de visa, mais ça, c'est normal. Et je pars 6 mois.
C'est un visa donné par les îles Salomon, hein.
Voilà,
on comprend
ça.
Bien.
Ouais. Et tu as une mission particulière?
Alors oui, la mission particulière, c'est dans le cadre du développement touristique, parce que les îles Salomon ont besoin de se développer économiquement. En plus, 2017, c'est l'année du développement du tourisme durable. Donc, mais surtout, une des activités de développement économique dans les îles du Pacifique, c'est en effet le tourisme, avec ses côtés positifs et ses côtés potentiellement négatifs, bien sûr. Donc là, pour une fois, c'est un contrat où il y a avec non pas avec une organisation, mais avec une entreprise privée. Donc enfin, c'est une famille, mais ça s'explique un petit peu dans le contexte culturel des îles Salomon, qui sont encore très traditionnelles, bon, qui ont un gouvernement démocratique, mais bon, il y a encore beaucoup de culture de façon de fonctionner traditionnellement. Donc voilà, donc ce couple gère une lodge à Oki sur l'île de Malaita, et apparemment ils ont besoin de quelqu'un pour les aider à améliorer les opérations, enfin la façon dont on gère cette lodge, améliorer un peu. Comme c'est une famille qui est très connue, très respectée, etc., ils serviront un petit peu de modèle aux autres produits touristiques qui essaient de se développer aussi là-bas. Voilà, donc en gros c'est ça.
Et Malaita, Oki, c'est la grosse île,
une île, je crois que c'est peut-être la plus grande en superficie, mais elle est tout à fait. Alors je vous situe vaguement les îles Salomon pour ceux qui ne sauraient pas. C'est bon, bah, si vous voyez à peu près, bon, continuez au nord de la Nouvelle-Zélande, passez la Calédonie, Vanuatu, vous tournez un petit peu vers l'ouest, et tout à fait à l'ouest vous avez la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et puis un petit peu l'est de l'ouest vous avez les îles Salomon à peu près. Juste pour vous emmener, prenez une carte et regardez, c'est ce qu'elle dit.
À l'est de l'ouest.
Mais donc cette île-là est plus au nord des îles Salomon.
Non, elle est, donc c'est un groupe de plusieurs îles comme ça, comme je vous montre au studio.
Oui, on a bien compris, ça ressemble à une banane, géographe.
C'est une île qui est à l'est de Guadalcanal, qui est l'île principale où Honiara, la capitale, s'y est.
Tu vas prendre combien de moyens de transport pour
aller? Non, c'est pas si long. Non. Alors, le vol, en principe, c'est Auckland-Brisbane, et puis après, c'est Brisbane-Honiara, 3 heures. Et puis alors, là, de toute façon, on fait un peu de briefing pendant une semaine, et puis après, on va sur l'île de Malaita, dans la petite ville de Oki.
En bateau?
Je pense en avion, mais bon, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les vols étaient arrêtés parce qu'il y avait des disputes au point de vue des terres. Donc, pour y accéder, c'est entre 3 et 5 heures en bateau.
Mmh. Et qui sont les touristes qui vont sur
C'est ça que je ne sais pas trop. Je pense que c'est un petit peu... Alors, je pense que pour l'instant, c'est surtout les ONG, les locaux, etc., quelques fanatiques des destinations les plus lointaine, si je puis dire, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques freins à ce développement, dans la mesure où il y a la malaria, la dengue, le Zika, l'eau est pas tout à fait potable.
Elle n'est pas tout à fait potable. Elle est potable ou elle n'est pas, mais...
Bah, on l'a fait bouillir.
Elle n'est pas tout à fait.
Oui, ça va mieux.
Oui,
quoi.
C'est ça. Bon, je ne vais pas être trop négative. Voilà. Bon. Donc, je pense que. Bon, je ne suis pas très sûre de à quoi m'attendre. Enfin, on verra.
On espère te revoir en une seule pièce. Quoi, c'est
oui,
ça
oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais les gens des îles Salomon sont très, très chaleureux, très, très gentils, tout le monde le dit. Donc, et puis, bon, dans la mesure où cette entreprise a demandé quelqu'un, forcément, ils veulent qu'on travaille ensemble, donc ça risque d'être
Et tu vas faire du développement côté gestion, côté staff, côté... Tu vas creuser des trous pour mettre des...
Non, j'ai plusieurs objectifs, mais le grand objectif, c'est de que cette lodge fonctionne bien et réponde aux besoins des touristes, mais je pense qu'il faut aussi être sûr que tout ce qui est développement touristique se fasse dans un contexte de tourisme responsable. Mm-hmm. Donc là, j'ai de la chance, parce que quand j'étais en Afrique du Sud, j'ai travaillé avec une organisation locale qui s'appelait Fair Trade in Tourism South Africa. Donc ça a été absolument fantastique, dans la mesure où ils ont vraiment développé une certification pour tous les produits touristiques, africains ou pas d'ailleurs. J'ai travaillé avec eux pendant 2 ans, et là où j'étais, on a réussi à avoir les certifications. Donc c'est toute une démarche assez intéressante, mais bien sûr... C'est ça le problème du développement touristique. Il y a les côtés positifs, bon, parce que ça peut apporter... on fait miroiter des apports économiques qui ne sont pas toujours évidents. Et puis, il y a le côté négatif où...
Les poubelles, par exemple.
Ben, oui, de toute façon, ça, il n'y a pas de collecte des poubelles sur l'île de Oki. Donc, ça va être un des gros sujets. Mais, justement, dans quelles années, peut-être 84 ou par là, il y avait un groupe qui s'appelait Coconut Free Press, Suisse qui a fait un petit fascicule sur la gestion des ordures ménagères dans les îles du Pacifique, en français et en anglais. Donc, j'emmène mon petit fascicule avec moi. Mmh. C'était notre ami Grégoire et puis Luc Toutougoro qui avaient produit ça. Donc, seulement j'ai que 6 mois pour
mettre en place. Est-ce que c'est reconductible une fois que tu es sur place? Genre, tu dis, bon, j'ai presque fini, mais il me reste 2 mois à faire.
Alors ça,
est-ce
qu'ils te reconduisent entre...
ou il faut que tu reviennes à Auckland et qu'ils renvoient quelqu'un ou ils te renvoient à toi?
C'est comme de toute façon, on a des rapports à faire régulièrement. Ça, c'est entre VSR, entre Hockey Lodge et entre moi. S'il y a vraiment besoin que je reste 1 mois ou 2 mois de plus, ce sera une négociation entre les 3 partenaires.
Et c'est du volontariat ou tu es payé ou
alors,
comment ça se passe? Parce que tu vas travailler.
Oui. Alors, c'est du volontariat, mais c'est pas ce genre de volontariat qu'on voit se développer de plus en plus dans le monde où les gens s'en vont faire la charité ou le bien dans les pays en voie de développement sans formation particulière, sans projet particulier et en plus ils doivent payer.
Il
y a tout un scandale là-dessus qui est absolument... Donc, non, VSL, la façon dont ils travaillent, c'est vraiment du développement à niveau de, comment on dit ça, grassroots level. Enfin, ils répondent aux besoins d'organisations locales. Et c'est pas VSA qui décide d'envoyer quelqu'un pour ça ou ça. Donc, dans chaque pays du Pacifique où il y a des projets avec VSA, il y a un country manager qui s'occupe de faire du network, du réseau avec les organisations locales. Et quand il y a une possibilité de demande volontaire, donc ils élaborent tout un projet ensemble pour être sûr aussi que cette organisation répond au nouveau goal de développement. Donc, vous avez peut-être entendu parler jusqu'à 2015, les
buts de développement.
Depuis 2015, il y a maintenant 17 goals qui ont été développés, qui ont été.
C'est que
élaborés.
Pour VSA ou c'est tous
non,
les
NGOs? Non, ça,
tous
c'est le monde entier. Mais ça, c'est dans le monde entier. Ça, c'est les nouveaux Sustainable Development Goals. Ouais. Donc, il faut que cette organisation réponde à tout ça, s'engage, etc. Donc, à ce moment-là, VSA passe une annonce dans les différents réseaux qu'elle a. Et puis, il sélectionne sur dossier assez complet. Une ou deux personnes pour les premières sélections. Et puis, une fois qu'on est sélectionné, c'est sûr que ce qui est très bien, c'est que, comme ils disent sur leur petit magazine, Flight Accommodation Insurance and Some Expense are covered. Ce qui fait que, une fois qu'on est sélectionné, tous les frais sont pris en charge. On est vraiment très bien préparé. J'ai fait 4 jours de briefing, 4 jours entiers, et on a des dossiers, des tas de choses à lire, des tas de choses à faire. Bien sûr, une visite médicale. Il faut qu'on soit
fit,
qu'on soit
en bonne santé.
OK par notre GP, après les vaccinations, etc. Et donc, en principe, ça ne coûte rien de partir comme volontaire avec VSA.
Ça coûte rien, et eux, de leur côté, ils obtiennent des professionnels avec de l'expérience.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Ouais. C'est un peu plus sérieux.
Oui. Et oui, mais c'est quand même très contrôlé. Il faut faire des rapports tous les 3 mois. On est quand même suivi. Et VSA est aussi sponsorisé par MFAT, à la limite de 92 ou 96%. Donc, ministère des Affaires étrangères.
D'accord.
Donc
et tu as un soutien local, tu as quelqu'un
là-bas? C'est-à-dire que pas sur Aoki, mais à Honiara, il y a 2 personnes dans le bureau de VSA, la country manager et puis une personne locale qui fait aussi l'administration et qui travaille.
Le country manager, c'est souvent un Kiwi ou un Australien, j'imagine.
Pas forcément. Là, c'est une jeune femme de Fidji qui tient ce poste.
Donc, parce que VSA, c'est très très Kiwi, hein. C'est
fondé
par des Kiwis.
C'est essentiellement néo-zélandais.
Ils sont internationalisés un peu plus maintenant du fait qu'ils sont partout dans le Pacifique.
Ils sont partis dans le Pacifique. Avant, ils étaient en Afrique, en Asie. Mais maintenant, c'est seulement le Pacifique. Mais c'est par la Nouvelle-Zélande, pour les Néo-Zélandais. Donc, il faut être permanent résident au moins pour pouvoir... Voilà. pour pouvoir être accepté. Donc voilà. Donc ben on mettra sur le blog le site de VSA, parce que alors ce qui est intéressant aussi, je le cite rapidement avant de prendre tout le temps, c'est que bon, traditionnellement VSA c'était surtout des missions de 2 ans, ce qui ça demande quand même énormément sur sa vie personnelle, mais de plus en plus ils ont développé des assignements, des missions beaucoup plus courtes, et donc des fois de 6 mois, de 1 an, et aussi des contrats avec des organisations, des business néo-zélandais, dont Downer, entre autres, et qui, là, c'est assez intéressant. Ils envoient des jeunes ingénieurs de leur boîte, de Downer, hein, donc, et qui font ce qu'on appelle un chain assignment, c'est-à-dire, excusez l'anglais, c'est-à-dire qu'ils envoient ces jeunes pendant que, donc ils sont, donc ils pourraient pas partir 2 ans ou 6 mois ou 1 an, mais qui peuvent partir 3 mois. Donc ils partent 3 mois. Il y a justement tout un contrat avec les îles Salomon. Donc un de mes amis là est parti, Luc, là il y a 1 mois. Donc il a passé 1 mois avec le précédent et le prochain va être là un mois avec lui. Donc il y a vraiment un suivi qui se fait. Donc ça c'est intéressant parce que ça leur donne une expérience professionnelle fantastique, un bon tic sur leur CV.
Et en même temps, les îles Salomon ont quelqu'un pendant plusieurs années. Mais c'est 3 mois pour chacun.
Et donc c'est essentiellement de l'échange de compétences, et je dois dire qu'on apprend autant que ce qu'on peut.
Bah, j'ai pensé à toi parce qu'il y avait une très bonne émission sur National Radio hier soir à 6h sur Pacifica. Et qui des gens qui revenaient des îles Salomon, en fait la police, la gendarmerie de l'armée aussi. Ils ont fait une mission de quoi, 10 ans maintenant, 14 je sais pas combien, 14 ans. Donc j'écoutais ça et c'était assez intéressant parce qu'ils disaient en fait que l'argent était bizarrement australien, tous les fonds étaient australiens, mais toutes les personnes, tous les policiers, tous les instructeurs étaient kiwis.
Parce que la Nouvelle-Zélande était sur place pendant
14 ans. Et justement, parlant de radio, cet après-midi aussi, Hélène Clark s'entretenait avec Jill Greer, qui était la CEO de VSA, qui vient d'arrêter d'ailleurs. Mais donc leur débat était cet après-midi à 4h sur National Radio.
National Radio, si vous voulez écouter.
Ben, je ne sais pas, il y a d'autres questions.
Est-ce qu'il y a une ambassade française là-bas?
Non, j'ai regardé, je crois que c'est Papouas-Nouvelle-Guinée, il y a l'ambassade de France.
Salomon, c'est un peu petit, je pense.
Il y en a une affichée.
Je crois qu'il y a une ambassade allemande.
D'accord.
Et donc les Français sont connectés là.
Je sais que tu as fait ça avant en Afrique, mais là, tu es excitée, tu es anxieuse, tu es...
Je me rends compte que j'ai plus la même énergie que j'avais il y a 12 ans, hein, parce que les années s'accumulent. Mais je pense que ce sera les défis seront différents que pour l'Afrique du Sud. Mais c'est-à-dire que c'est un petit peu difficile parce que j'ai toujours pas de visa, j'ai pas de billet d'avion. Donc, je pars dans 2 semaines en principe. Donc, enfin, touriste, je partirai dans 1 mois, c'est pas une affaire.
Tu m'avais dit hors antenne, quand je suis venu chez toi rapporter des papiers et décédé, tu m'avais dit il y a 2 autres jeunes femmes d'âge différent qui ont d'autres projets aussi qui
donc,
partent.
Sur Aoki, c'est-à-dire on est plusieurs de clans à partir sur les îles Salomon, mais sur Aoki, il y aura une jeune femme qui, elle, est bijoutière, elle ne vend pas des bijoux, elle les fabrique et qui va travailler avec un petit institut de formation. Donc ça, ça va être très très intéressant parce que c'est essayer de gérer la fabrication de bijoux utilisant les façons traditionnelles et les
façons modernes aussi, pour apprendre des deux côtés.
Donc elle part en même temps que moi et on va partager la même maison avec une jeune volontaire qui est australienne, qui est déjà là-bas. Donc 3 femmes de générations différentes dans cette maison, ça va être intéressant.
Mais qui, elle, fait quoi, l'australienne, encore?
Elle travaille pour le département de l'éducation, alors je ne suis pas exactement sûre quel est son travail.
Et tu as un accès Internet? Tu peux rester en contact
alors,
avec ta famille?
Ça, ce sera up and down. C'est-à-dire
quand tu pédales vite, la batterie qui se met en route.
C'est pour ça que je me suis acheté un très beau smartphone, mon vieux Nokia marchait toujours, parce qu'apparemment, nous, on nous a bien dit que c'était mieux d'avoir par le smartphone en achetant des recharges sur son SIM card.
Tu utilises des data, quoi, pas d'accès Internet.
Voilà. Il y a un accès Internet, mais très aléatoire, hein, c'est normal, c'est pas évident à développer. Donc ça va être différent. Donc,
Est-ce que tu vas avoir des visites? Est-ce qu'il y a des... Visite prévue, peut-être, de la famille?
Bah, de la famille, non, parce que comme il y a beaucoup de petits bébés, c'est un petit peu risqué avec la malaria.
Puis en six mois, ça fait court. Si c'était parti de deux ans.
Enfin, si quelqu'un veut venir, bien sûr, je vous attends avec impatience. Mais prenez vos
médicaments.
Anti-malaria, oui.
Bon, voilà. Bon, on sait où te retrouver aussi. On a envie de vacances aux îles Salomon.
Voilà.
Pour les prochaines six
donc,
mois.
Donc, j'ai commencé un blog. Enfin, je viens juste le créer ce matin. Donc,
ça s'appelle comment? C'est quoi le titre?
Journey to Malaita.
Journey to Malaita. Comment tu appelles Malaita?
Comment on le prononce? M-A-L-A-I-T-A.
Bon, on mettra le lien sur le blog Amuse-Gueule.
Voilà.
Comme ça, les auditeurs pourront suivre ton voyage. On se fera une petite interview quand tu rentres.
Ah bah quand même, oui, il faudra vous raconter.
Et tu mettras des photos aussi sur le blog.
Oui, ça sera surtout basé sur des photos parce que je ne vais pas faire
des grands discours. Bah, si tu es occupé à monter un business, c'est difficile de s'occuper à monter un blog.
C'est-à-dire, j'ai quand même le soir et le week-end en principe. Ouais. Mais bon, on verra.
Tu vas peut-être faire le Facebook et le blog du business aussi, non, j'imagine?
Probablement, oui.
Ouais, mais... donc, voilà,
elle est grande, l'île? Il y a beaucoup d'habitants ou...
J'ai trouvé différents chiffres. Il y a à peu près 600 000 habitants en tout dans les îles Salomon. Oui. Il y a à peu près 900 îles, donc 300 seulement sont occupées, enfin sont inhabitées, habitées, pardon. Et donc, Malaita, je pense qu'il, enfin sur Aoki, je crois qu'il y a entre 2000, enfin il doit y avoir à peu près 10 000, 12 000.
C'est un village, quoi.
Oui. C'est-à-dire que oui, c'est une petite ville, mais il y a ce qu'il faut, il y a un hôpital, il y a...
Et combien de langues?
Alors en tout, dans les îles Salomon, il y a quelque chose comme une soixantaine de langues. Parce que les gens sont venus de différents coins du Pacifique, mais c'est surtout mélanésien. Mais il y a différentes langues, oui, une soixantaine de langues, même sur l'île de Malaita, il y a des langues différentes dans les différents coins. Mais autrement, c'est le pidgin, donc un anglais prononcé différemment. Donc ça m'ira tout à fait, vu mon niveau de prononciation de l'anglais.
Qui a disparu aux îles Fidji, bizarrement. Je reviens de Fidji il y a un mois, il disait non, ça y est, le pidgin est disparu maintenant.
Donc voilà, il y aura tout ça à apprendre. Oui, ça va être intéressant.
C'est intéressant.
Merci Elisabeth.
De rien.
Merci,
Elisabeth.
Bon voyage.
Bonne chance, hein. Ouais.
Merci. Oui.
Et on reste connectés, comme on dit. Tu nous passes du Jeanne Moreau?
Oui, je vais vous passer. J'ai la mémoire qui flanche.
J'ai la mémoire qui flanche. Je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom? Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que j'aimais l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux? Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris? Était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non, pour un oui? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il m'aime, pendant qu'on faisait la fête. Tous ces saxos, ces clarinettes, ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé, de l'autre le premier? Était-ce moi, était-ce lui, était-ce donc moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui s'y flottait chaque jour en se rasant. Pa-dou-dou-dou-dou-da-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-
Voilà, voilà, Jeanne Moreau, j'ai la mémoire qui flanche. que j'ai essayé de fredonner disgracieusement.
C'est une classique. Hein.
Classique. Hein. Ouais, non, puis c'est une ritournelle, ça reste bien dans la tête. Enfin bon.
C'était quoi le contexte de cette chanson d'ailleurs?
Je l'ai un peu lu, puis c'est sur Libération, un bel article. Du quelle date? Je vous dis ça dans deux secondes. Du 31 juillet. À 14h56. C'est super précis maintenant parce que c'est en ligne. Donc, ils mettent l'heure et la minute de la parution de l'article. C'est fort quand même. Mmh. Qu'est-ce qu'ils disent sur J'ai la mémoire qui flanche? C'est aussi monsieur Machin qui l'a écrit, monsieur Revzani. Je suis pas bien. Il avait son nom de scène, c'était Bassiak.
D'accord.
Je sais pas si c'est pas plus facile. Il y a un K dedans en plus. C'est des bons noms pour jouer au Scrabble.
Ah, c'est clair.
Des Z, des K.
Ça ressemble un peu à Basquiat aussi.
Mais... Oui, il y a Basquiat.
Oui.
Non, qu'est-ce qu'ils disent sur J'ai la mémoire qui flanche? Je l'ai lu et puis j'ai oublié, j'aurais dû prendre des notes en fait.
Toi aussi, ta mémoire flanche. Hein.
J'ai la mémoire qui flanche. Facile, hein. Voilà, c'est ça. Non, bon, on passera. Mais c'est lui qui l'a écrit, celle-là aussi. Voilà, voilà. Raising the bar, Diane, tu nous disais.
D'accord.
Donc, raising the bar, donc lever les barres. Lever les barres, la levée de barres.
Oui, je pense que c'est un jeu de mots aussi, oui, hein, oui. Bien sûr. Mais dans la continuité de Auckland, une ville non-stop en hiver, je pensais que c'était intéressant de parler donc de cette nouvelle initiative qui s'appelle Raising the Bar. À l'origine, ça a été en fait inventé à New York en 2015, donc assez récemment. Et c'est un événement qui s'est un peu propagé au Canada, à Melbourne, enfin à Hong Kong aussi, je crois. Et donc en fait, l'idée, c'est juste un soir, une seule nuit. Et c'est en fait de proposer dans à peu près, je crois que c'est 20 bars à Auckland, donc des bars plutôt populaires en général. En fait, c'est de proposer des conférences sur différents types de sujets. Et en fait, l'idée, c'était que ces conférences, c'est des conférences universitaires. Donc c'est une initiative d'ailleurs de Auckland Université. Et donc c'était de transposer le lieu des conférences un petit peu froid qui se passe souvent dans les universités et de le transposer dans des bars, puisque en fait le bar depuis toujours c'est propice à toutes sortes de conversations, de débats, et voilà. Donc c'est le 29 août. C'est un événement gratuit, mais alors ils anticipent que ça va être un événement assez populaire.
Imbibé ou les deux.
Sûrement. Il faut réserver parce que quand tu nous en as parlé cette semaine, je suis allée tout de suite sur le site pour voir le programme. Il y a déjà des événements, qui sont déjà
un mois à l'avance,
complètement réservés. Quoi.
Ouais.
Donc raisingthebar.co.nz déjà, il faut y aller.
Il faut y aller là parce que il y a des talks très intéressantes qui sont déjà plus available.
Plus disponibles,
merci.
Ouais. Et en fait, c'est assez facile. Tu t'inscris en ligne, ça coûte rien. Tu t'engages pas si tu vas ou tu vas pas. D'ailleurs, c'est un petit peu... Bon,
c'est dommage qu'il y aurait pu avoir quelqu'un d'autre, quoi. Donc, il faut mieux y aller, quoi.
Oui. Et puis, ce qui est dommage, c'est que comme c'est un soir, c'est un petit peu difficile d'aller à toutes les conférences.
Il faut bien choisir.
Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand même les sujets proposés, parce qu'il y a vraiment une diversité de problématiques. Donc, on peut aller. Qu'est-ce qu'il y avait enseigner aux enfants. Qu'est-ce que c'était? Ah oui, enseigner aux enfants la notion de terrorisme. How to burn pop songs.
Oui.
Donc c'est une problématique qu'on peut avoir, quoi.
Si on ne sait pas comment écrire une pop song. Ouais.
Voilà, ou se transposer dans le cerveau d'un requin.
Oui, donc, c'est pour Elisabeth, ça, juste avant les îles Salomon.
Voilà. Et en fait, moi, je me suis inscrite à une conférence. Et en fait, c'est un universitaire qui va l'animer. Et c'est quelqu'un qui travaille, donc c'est un historien, qui est spécialisé dans l'histoire des religions. Et donc sa conférence, c'est un petit peu sur justement la problématique des religions de nos jours, enfin du Moyen-Âge à nos jours. Donc c'est un petit peu lourd quand même comme sujet. Et en fait, cet historien, lui, il a développé une sorte de méthode où en fait il va dans des zones de conflit et il utilise le théâtre pour faire parler les gens.
Ah oui, d'accord.
Donc ça s'est déjà fait d'ailleurs. Oh, oui. Mais en Nouvelle-Zélande, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un qui avait fait ça.
Mais le thème étant les religions.
Voilà. Et donc, mais ça, c'est son profil et je trouvais que c'était intéressant. Mm-hmm. Et là, on verra ce que ça donne. Donc je crois.
Donc il fait un cours de théâtre à l'université ou il fait un cours de
non,
religion?
Non, il fait un cours de religion, mais lui, dans sa pratique, dans ce qu'il a fait dans ses recherches, il est allé un petit peu partout dans le monde où il y a des zones de conflit. Et il a utilisé le théâtre comme vecteur pour faire parler
des gens de leur religion, des problèmes.
Voilà, des gens affectés par des conflits et tout ça. Okay. Donc voilà, ça oui, promet d'être une. J'ai hésité aussi avec justement se transposer dans le cerveau d'un requin, mais bon, finalement, je me suis dit pour une autre fois.
Mais il y a des talks très très intéressantes. Donc moi, celle que je voulais faire et puis qui est maintenant vendue, c'est Tracy McIntosh qui fait une talk sur imaginer un monde sans prison. Et ouais, ça pourrait être très intéressant. Mmh. Mais surtout, c'est des talks genre à la TEDx, quoi, des scientifiques.
Ouais. Ah oui, c'est quoi le format? C'est 18 minutes comme TEDx ou c'est une heure?
Non. Alors, je ne sais pas combien de temps je pense que la conférence, enfin, les talks durent sûrement au moins une heure.
D'accord.
Mais effectivement, tous les gens qui vont animer ces conférences, c'est des profils très intéressants. C'est des universitaires, non,
parce que
j'imagine, ou des spécialistes.
Pour faire plaisir au bar, il faut quand même, si c'est tech talk, 15 à 18 minutes, c'est fini. T'as pas le temps de boire une bière.
Non, et il y a moyen de voir deux talks, en fait.
C'est
20 talks. Comment on dit en français là-bas?
Ben, c'est 20
présentations.
Bars, présentation.
Ouais. 20 présentations dans 10 bars.
Dans 10 bars, voilà, c'est ça.
Donc il y a deux présentations par bar.
Il y a moyen de voir deux présentations. Voilà,
si on s'attarde pas dans un bar. Ça, c'est le problème aussi.
Bah, ou rester
dans le même.
Oui, c'est vrai. Ah oui, d'accord. Donc, oui.
Si tu restes dans le même, ouais.
Tu assistes à la prochaine.
Voilà.
Ouais. C'est gratuit quand même?
Pour s'inscrire, oui,
c'est
gratuit.
Sauf la bière. En fait, bon,
après,
la bière est
voilà, ce que tu vas consommer sur place. Voilà.
Et ce sont des heures civiles, genre juste après travailler à 6 heures,
c'est
à partir de 6 heures, à 2 heures de l'après-midi.
Non, parce que c'est le 29 août, je crois que c'est un soir de semaine, ça doit être un jeudi.
Mardi.
Ah, c'est un mardi.
Je parle le 22, donc.
Voilà.
C'est aussi mardi.
Mardi 29 août.
C'est ça. D'accord. Et je crois que c'est à partir de 6 heures du soir. Voilà. Donc,
C'est chouette.
Oui, c'est intéressant et je pense, enfin, c'est assez nouveau pour Auckland aussi. En général, dans les bars, les gens. Il y a pas mal de poetry, de pub,
slam et tout ça.
Mais là, je pense que c'est un format effectivement nouveau et qui a fait ses preuves à l'étranger. Donc,
C'est rigolo parce que tu nous as envoyé un petit résumé de ce dont tu allais parler ce soir et Sam, que tu avais aussi dans ton résumé dit un concept nouveau et je me suis dit tiens, c'est rigolo parce que moi quand j'étais à l'école, donc il y a 35 ans, on m'avait appris que c'était soit Platon, soit Socrate qui avait inventé l'université moderne, donc il y a 3500 ans, et que quand il avait créé ça à Athènes ou je sais pas où, je crois que c'est Athènes, il l'avait fait sur la place du marché. Et donc la place du marché, c'était pour Socrate et Platon, que l'un était l'élève de l'autre de toute façon, c'était l'endroit pour se réunir, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas de place.
C'était l'Agora.
Voilà, c'est ça, l'Agora.
Ouais, j'y étais il y a un mois, c'est pour ça que je sais. Voilà.
Je me suis dit, non, faire ça dans un bar, bon, à part le côté imbibé, c'est quand même un espace public, il n'y a pas le côté ouvert, mais Platon et Socrate, ils ont inventé ça bien avant nous, comme je me disais, tiens, c'est nouveau sans être nouveau, tu vois ce que je veux dire?
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est une manière de.
Mais ça fait vivre les idées, quoi, c'est ça?
Tout à fait.
Moi, ce qui m'a plu dans le programme, c'est que c'est pas du entertainment, quoi. C'est pas pour. C'est pour apprendre. Toutes les talks, là, elles sont faites par des spécialistes, des scientifiques, sur des sujets très, très spécifiques, où principalement, j'ai regardé la liste, il n'y en a aucun où je connais, je pourrais apprendre en allant aux 20 présentations. Quoi. Ouais. Donc, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que vraiment ça raise the bar, le niveau.
Ça remonte.
Pour une soirée,
niveau,
on apprend tout à fait. Au travers de scientifiques.
Et quand on sait que le coût d'un papier en Nouvelle-Zélande coûte tellement cher aux élèves, on se dit tiens, on peut faire 10 papiers pour pas cher.
Ouais, tout à fait. Et puis ça. comme tu dis, ça permet de sensibiliser sur des problèmes ou des sujets
dont on parle pas tous les jours. Je crois que le monsieur ou la dame, je crois que c'était un monsieur, est passé sur. J'écoute beaucoup Radio Nouvelle-Zélande et ils sont passés il y a 2 semaines, celui que des requins.
Ah
la,
d'accord.
La tête du requin. Il y avait une émission là-dessus.
C'était intéressant. Le site est bien fait, c'est clair, et le concept est simple, mais c'est juste bien de le savoir et de faire.
Pour Auckland, c'est la première année. Pour Auckland,
ouais, d'accord. Ouais, c'est la première année.
Sinon, probablement Melbourne, New York, tout ça, ça va faire leur troisième année.
Bah oui, parce que ça avait commencé en 2015, d'accord, la première fois à New York.
Donc, et c'est toujours, même à l'étranger, c'est toujours qu'une soirée, ou est-ce qu'il commence à grandir à une semaine ou...
Je ne sais pas, mais je. Je sais pas.
Et tu sais si c'est le même soir? C'est genre c'est le 29 août, c'est le 29 août ou ça change dans les pays?
Tu veux dire le 29 août partout dans le monde?
Oui, c'est un truc genre le journée de la femme.
Je crois que c'est lié à l'hiver. Je sais plus avec.
Je sais pas moi.
C'est le journée de Raising the Bar, International Raising the Bar Day. Non, je sais pas. Je crois que c'est lié à l'hiver en fait. Il y a cette idée que.
Ça doit être en décembre à New York. Alors.
Voilà.
D'accord.
On pourrait faire le tour du monde pour être sûr d'aller à chaque
talk. Oui, à mon avis, il faut faire des étapes.
Ça peut être un concept.
Aux îles Salomon, bientôt en hiver. Il fait 35 degrés en hiver.
Tu pourrais peut-être relancer cette initiative aux îles Salomon.
Déjà.
Raising the bar.
Déjà, on va construire le bar.
On m'a dit à Oki Lodge, donc cette lodge donc, que je vais développer, c'est le seul endroit où on peut manger le soir, mais enfin, il est précisé que c'est le seul endroit où on peut manger dans la mesure où on trouve quelqu'un pour être servi. Ouais. Et dans la mesure où on a le temps, 2 heures au plus, pour avoir son repas.
C'est comme à Fidji, ils disent, c'est les heures des îles. C'est tranquille, tranquille et lent.
Fidji time.
Ouais, Fidji time. Bon, mais c'est sympa, ça donne envie. Nous donnes l'eau à la bouche pour manger d'abord, et maintenant pour boire. Et pour les aider.
Je trouve que c'est bien parce que le lieu du bar, je trouve que ça donne un petit un edge, comme on dit, non?
Oui, puis, maintenant que les bars sont non-fumeurs, à mon avis, ça va plaire à tout le monde en plus.
Cet après-midi, au Golden Dawn, il y avait Max Harris qui parlait du New Zealand Project. Oui, oui.
Il y aura Jacinta, je crois, la semaine prochaine au Golden Dawn.
Ah ouais?
C'est où le Golden Dawn?
Je ne sors pas, non.
J'habite dans la province aucklandaise, très loin.
Sur Ponsonby, coin de Ponsonby et de Richmond Road.
Et c'est un bar?
Oui.
Il faut le trouver, c'est derrière nous.
C'est vrai que ce qui m'intéresse aussi avec cet événement Raising the Bar, c'est de voir un petit peu les gens qui vont...
L'ambiance.
Ça risque de changer peut-être des autres soirs ou je sais pas s'ils en font une à Chapel Bar par exemple, ça va peut-être changer de la clientèle des habitués. Ce sera peut-être pas des habitués.
Ce serait rigolo en fait pour moi parce que j'ai eu 2 images dans ma tête en lisant ton résumé pas sur l'email en me disant soit ça va être tous les étudiants qui payent $1000 pour avoir le papier qui viennent gratuitement dans un bar pour être sympa pour voir le prof spécialisé. Ou soit ça va être tous les gens comme nous, 40, 50, 60 ans, qui sont pas allés à l'université depuis 30 ans, mais qui sont curieux, ils se disent, tiens, on va peut-être apprendre quelque chose, et ça peut être sympa. Puis, on peut lever le coude en même temps, c'est bon.
Pourquoi pas?
Je serais curieux de savoir les résultats du contest.
Ça sera intéressant.
Est-ce qu'ils sont tous 18 à 25 ans, ou est-ce que c'est mélangé?
C'est dans 10 bars très différents. Effectivement, il y a le Golden Dawn, il y en a d'autres.
Et puis il y a un thème sur les enfants, t'avais dit.
Oui, alors donc en fait on enseignait le terrorisme. Comment parler du terrorisme aux enfants.
Oui, pas l'enseigner.
Non, ça c'est.
Comment fabriquer sa bombe
atomique. En anglais c'est quand même écrit How to teach kids about terrorism.
À
propos du terrorisme. Mmh. Voilà.
Quelle chanson on a choisi? Merci Diane.
Alors en fait, non, je ne vais pas vous jouer une chanson.
C'est un poème, on a dit.
Voilà, ce n'est pas vraiment un poème non plus. Ça s'appelle Jeanne Moreau vous parle de l'amour. Et c'est un document parlé, enregistré, je ne sais pas la date.
Je vais peut-être vous retrouver ça.
Tu as la date, toi?
Pas tout de suite, passe l'enregistrement.
D'accord.
Mais je sais que
c'est en deux parties. Ça se trouve sur YouTube et sur Spotify aussi. Alors, on va vous passer la première partie.
Merci.
Que c'est doux, cette bouche nue, ces lèvres pleines qui résistent aux baisers, élastiquement, qu'il faut écraser un peu pour rencontrer les dents. Je voudrais rester ainsi terrassée, le cœur battant dans la gorge, tandis que le brasier rose chauffe ma joue et que sa lueur se reflète au-dessus de moi dans deux yeux d'argent gris. Amour. Il n'y a pas de plus joli mot. En le disant, on a tout dit. Pourtant, on pourrait en parler pendant des heures et on en parle depuis des siècles, en vers, en prose, sans avoir l'impression de se répéter. Tout sentiment vrai et nouveau, tout ce qui sort réellement du cœur est dit pour la première fois. Cela est si vrai qu'un poème de Verlaine que tout le monde connaît par cœur me paraît toujours neuf quand je le lis. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches, et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches et qu'à vos yeux si beaux l'humble présent soit doux. C'est un poème d'amour, mais qu'est-ce que l'amour ? La littérature qu'il a inspirée est si abondante qu'on peut se demander si l'amour n'est justement rien d'autre qu'elle. C'était l'avis de La Rochefoucauld. Vous savez, il y a des gens qui n'auraient jamais été amoureux s'ils n'en avaient jamais entendu parler. Alors pour vous en parler, je n'ai que l'embarras du choix. Évidemment, ce ne sont pas toujours les mêmes poèmes qui nous émeuvent, les mêmes mots qui nous touchent. J'aurais d'abord voulu trouver une définition. Mais il y en a trop pour qu'on en trouve une qui soit vraiment bonne. Vous me direz, l'amour, ça se sent. La fièvre aussi, ça se sent. N'empêche qu'il y a le thermomètre. Ce n'est pas pareil d'avoir 37,5 ou 39,8. L'amour, comment savoir ? Formidable ! Mais formidable 37,5 ou formidable 39,8 ? Un bubon, c'est un bubon. Un cancer, c'est un cancer. Mais l'amour, est-ce un art comme la musique ? Un égoïsme à deux ? Est-ce tout simplement l'idée qu'on s'en fait ? Ou bien l'échange de deux fantaisies et le contact de deux épidermes ? On a parlé aussi de cette différence ridicule que l'on fait entre une femme et toutes les autres. Ce n'est qu'un mot d'auteur. Beaumarchais, lui, affirme que boire sans soif et faire l'amour en tout temps, il n'y a que ça qui nous distingue des autres bêtes. Mais Voltaire lui répond, on nomme hardiment amour un caprice de quelques jours, une liaison sans attachement, un sentiment sans estime, des simagrées de Sigisbée, une froide habitude, une fantaisie romanesque, un goût suivi d'un prompt dégoût. On donne ce nom à mille chimères. Tout est vrai. L'amour est vrai. Mais il est du véritable amour comme de l'apparition des esprits. Tout le monde en parle, mais peu de gens en ont vu. En général, pour les gens du monde, l'amour n'est que l'amour du jeu, l'amour des combats. C'est un grand tort. Il faut que l'amour soit l'amour. Le combat et le jeu ne sont permis que comme politique en cas d'amour. Nous ne sommes pas plus avancés. L'amour est pour tous. Ils ont beau le nier, la grande chose de la vie. Il n'y a point de déguisement qui puisse longtemps cacher l'amour où il est, ni le feindre où il n'est pas. Parmi tous les déguisements dont parle La Rochefoucauld, l'un des plus traditionnels, au moins dans notre pays, est celui de l'esprit. « Quand elles nous aiment », ironisent les hommes, « ce n'est pas vraiment nous qu'elles aiment, mais c'est bien nous, un beau matin, qu'elles n'aiment plus. » Personne n'a plus l'esprit que nous, répond une femme.
Alors, je coupe un peu la voix de Jeanne. On va vous parler de Jeanne Moreau. David a préparé une petite rubrique. Si vous voulez écouter la suite et la deuxième partie donc de Jeanne Moreau vous parle de l'amour, vous trouvez ça sur YouTube et sur Spotify.
Oui. Oui, donc parler de Jeanne Moreau, c'est d'actualité malheureusement, mais elle nous a laissé quand même une énorme carrière télévisuelle, 130 films. Donc je voulais vous poser, pour vous, c'est quoi les deux ou trois films ? Bon, il y en a un, Jules et Jim, je pense que tout le monde a celui-là dans la tête, à cause de la chanson, à cause de plein de choses. Mais est-ce qu'il y a deux ou trois autres films qui vous auraient marqué ?
Jules et Jim, ça c'est sûr, et Nikita.
Ah, mince, tu me voles le mien. Ouais, ouais, oui, la femme Nikita en anglais, bizarrement.
Elle joue un personnage au tout début du film.
L'instructrice de Nikita, en fait.
Une des instructrices, ouais. Mais qui lui instruit la féminité, comment être une femme, comment s'occuper de soi, comment se maquiller, comment... Et elle a un peu une attitude un peu matrone, donc ex-espionne, en fait, ouais. Qui travaille maintenant pour le gouvernement. Elle est plus âgée, et donc elle peut plus être espionne, mais donc elle entraîne les autres espionnes femmes à se maquiller, à se préparer, et elle a, je sais pas, elle joue un personnage très très intéressant dans ce film.
Bon, et moi j'allais dire exactement la même chose. Moi, c'est La femme Nikita, donc pour le titre anglais, Nikita pour le titre français de Luc Besson. C'est 1990. Donc, et Jeanne Moreau a 62 ans dans la vraie vie, hein, quand elle fait La femme Nikita.
Ouais,
et ça se voit, mais ça se voit pas. Donc, elle joue une espionne âgée, mais il y a tellement elle survend le sex appeal presque, parce que l'ambiance, c'est elle est en train de d'enseigner à une jeune femme de 20 ans comment être plus sexy, féminine, machin, pour utiliser ses atouts en même temps pour être espionne. C'est pas que d'utiliser les atouts, c'est de faire l'espion et en même temps de prendre du bon temps, machin. Et psychologiquement et en même temps au niveau du et moi j'ai donc redécouvert Julie Jim, c'est quand même 62, Truffaut 62, et donc 1990 Nikita, et ça a fait tilt. Je me suis dit tiens, Jeanne Moreau très forte quand même. Pour faire un...
Elle a une ligne dans ce film qui m'était restée. Elle apprend à... C'est quoi l'actrice qui joue Nikita?
Ivanovitch. Ivanovitch. Non. C'est l'une des femmes de Luc Besson, s'il les marie toutes. Je vous dis ça dans quelques secondes.
Non, pas. Oui, c'est pas Anne Parillo. Bref.
C'est pas Jane Fonda.
Non. C'est une française. Bref. Et elle lui montre comment se mettre du rouge à lèvres, voilà. Et Jeanne Moreau avec sa cigarette, le coude sur la coiffeuse avec devant le miroir, parle à
donc. Si c'est Anne Parillo.
Anne Parillo.
Ah, pardon.
Parle à Nikita, Anne Parillo, donc, et lui dit. On ne peut jamais abuser de la féminité. Et j'avais trouvé ça. Ça m'est resté parce que je ne sais pas pourquoi. Parce que
c'est une belle phrase.
C'est une belle phrase. Ouais. Et puis c'est vrai aussi que quand on y pense en tant que femme, on a plus tendance à limiter la féminité qu'à en abuser.
Et ça dépend des pays. J'ai des théories là-dessus.
Bon, d'accord. Bref. Et toi, Diane, les films?
Bon, alors évidemment, oui, Julie Jim, mais aussi, là, j'ai juste de penser, il y avait les valseuses.
Oui.
Elle était dans les valseuses.
Oui, et elle avait en fait, elle jouait un personnage, donc à l'époque, elle devait avoir 50 ans, je pense, à peu près, ou. Enfin, ouais, 45-50 ans. Et en fait, son personnage était assez compliqué. Et d'ailleurs, ça avait été pas forcément bien reçu. Donc, vous connaissez les deux personnages des valseuses. Donc,
Depardieu et...
Oui.
Et Patrick
Dewey.
Voilà. Et donc, d'aventure en aventure, en fait, il se fatigue un peu des jeunes femmes et il décide de pouvoir rencontrer une femme d'un âge plus mûr et de voir qu'est-ce qu'ils peuvent expérimenter avec elle. Et donc, elle est cette femme qui sort de prison et qui, en fait, a une grande tristesse, une grande amertume. Et en fait, elle s'amuse une dernière fois avec eux, et puis ensuite, elle se suicide d'une façon... vous avez qu'à voir le film.
Merci, j'allais dire, il faut voir le film.
Ouais. Et c'est un personnage très fort, et elle était...
Le film est très dur aussi, donc pas que le personnage.
Oui, mais il y a eu rarement un personnage comme ça, je trouve, dans le cinéma. C'est, voilà.
Mais Jeanne Moreau joue toujours... C'est un peu comme Simone Signoret, elle joue toujours des personnages très forts, mais elle remplit l'écran, quoi. Je pense que ça vient de sa personnalité aussi. Elle c'était une femme d'un charisme énorme. Et Simone Signoret aussi, et ces femmes-là, quels que soient les rôles qu'elles jouent, d'abord, elles étaient très bonnes actrices, mais aussi, elles avaient une personnalité incroyable.
Ouais. Et donc, dans les accolades, c'est la plus jeune, encore à ce jour, femme qui a fait qui est entrée à la Comédie Française. Donc, elle avait 20 ans quand elle est entrée à plein temps à la Comédie Française. Donc, elle était payée à plein temps. C'est aussi la première femme à être... Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? À la...
Des Beaux-Arts.
À l'Académie des Beaux-Arts.
Donc, c'est pas mal quand même. Donc, elle a fait plein de choses. Elle a eu 3 Césars. Elle a eu un Oscar.
Et elle parlait anglais très bien.
Oui.
Parce que sa mère était anglaise. Donc, elle avait aucun accent. Donc, c'était une des premières actrices françaises qui aussi... Elle a joué avec Orson Welles.
D'ailleurs, les journaux de New York Times, Washington Post, tout ça, les journaux sérieux des États-Unis lui rendent hommage comme la française qui a fait découvrir aux Américains le cinéma français. que ce soit par Julie Jim ou les autres. Et aussi parce qu'elle a tourné trois films, je crois, avec Orson Welles, ou deux Orson Welles.
Elle a une relation avec
Elle a
Miles
une relation
Davis,
aussi. Et donc, oui, dans les années 50. Et donc,
c'est pas embêté.
Non, elle s'est pas embêtée.
Bon, c'était quoi la phrase? Qu'est-ce qu'elle a dit? Il faut pas.
On ne peut jamais abuser de la féminité.
Voilà,
je crois qu'elle l'a vécu.
Elle a bien appliqué pour elle-même.
Bon, je crois que je vais essayer de trouver une bio, un livre.
Il y a beaucoup de films. Donc, il y a Les Amants, il y a Ascenseur pour l'échafaud, elle a tourné en Italie aussi. Moi, l'un des films, c'est plus léger, hein, mais il y avait Viva Maria avec Brigitte Bardot quand même. Ah, c'est un film très. Moi, je trouve ça truculent et rigolo, sympathique. Female Power, c'est les années 60 quand même. Mais bon, c'est très chouette.
Elle était engagée aussi. On parlait juste avant l'émission de la signature du manifeste pour faire passer la loi de l'avortement. Ouais. Qui s'appelait les 300
ça devait être 340
340 ça, salopes
Le nom de salope a été donné par Charlie Hebdo
à l'époque.
Et je ne sais pas si vous avez vu l'hommage de Brigitte Bardot. Donc c'est intéressant parce qu'elles sont quand même du même âge et elles ont pris quand même des directions très différentes. Et donc elle a dit Jeanne Moreau, c'est comme une sœur. Je ne pourrai jamais être elle. Elle ne pourra jamais être moi. Mais on a cette complicité. Okay. C'est intéressant comme image.
On se dit bonsoir quand même. En fond de musique, tu as choisi quoi en fond de musique?
On va finir avec donc Jeanne Moreau. Et puis.
Il ne reste plus beaucoup de temps.
C'est Le Bleu Indolent.
Le Bleu Indolent. Merci Diane. Elisabeth, bon voyage.
Merci.
Et
bonsoir.
Anso. Ciao. À la semaine prochaine. C'est Romain et tous les autres. Et Simon, je crois. Simon. Voilà.
Je suis indolente, mes yeux sont vagues, 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 je balance.